Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur Paris. Paris sous l'occupation allemande entre juin 40 et août 44.
Oui, une période sombre.
On va explorer ensemble comment la ville lumière a vécu ces années-là. L'image qui marque, c'est bien sûr les troupes allemandes sur les Champs-Élysées, ce drapeau nazi sur la Tour Eiffel dès le 14 juin 40.
Tout à fait. Une occupation qui a profondément marqué Paris. La ville change de statut, elle n'est plus la capitale politique, mais devient le siège du commandement militaire allemand, en France, le MBF.
Installé à l'hôtel Majestic, c'est ça?
Exactement. Et ce n'était que le début d'un quadrillage méthodique de la ville.
Et cette arrivée allemande, elle s'est faite comment? Rapidement, j'imagine?
Très rapidement. Paris avait été déclarée ville ouverte pour éviter les destructions massives. Mais du coup, elle s'est vidée, hein. Près des deux tiers des habitants étaient partis.
Incroyable. Et les Allemands y s'installent?
Ah oui, et pas n'importe où, dans les lieux de pouvoir, l'Assemblée, le Sénat. Ils remplacent les drapeaux, organisent des parades. Tout était très planifié.
Même les réquisitions d'immeubles?
Surtout. Souvent des immeubles haussmanniens, vous savez, pour le confort, mais aussi pour les aspects pratiques, comme les doubles entrées.
Et certains lieux deviennent tristement célèbres.
Oui, outre le Majestic pour le MBE, il y a le Meurice, rue de Rivoli, qui devient la commandanture du Grand Paris, ou encore le 72 avenue Foch, siège de la CIPO-SD, la police de sûreté allemande, avec la Gestapo.
Sans oublier la Gestapo française, la Carling.
Rue Lauriston, oui. Une véritable administration militaire et policière qui s'installe. Et tout ça financé par la France, avec une indemnité d'occupation énorme. 400 millions de francs par jour au début.
Et pour les Parisiens qui sont restés, le quotidien a dû être bouleversé.
Complètement. D'abord visuellement, les panneaux en allemand partout, l'heure allemande aux horloges. Et puis économiquement, avec un taux de change franc-marque très défavorable.
Mais surtout la pénurie, non?
Ah oui, la pénurie. C'est le maître mot. Nourriture, charbon pour se chauffer, essence, tout manque. Résultat, le marché noir explose. C'est vital pour beaucoup.
Et les transports? On imagine la galère sans essence.
C'est le grand retour des fiacres, tirés par des chevaux. L'apparition des vélos-taxis aussi. Et surtout, le vélo. Un boom incroyable. On parle de 2 millions de vélos à Paris en 1942. C'est fou, hein?
Dingue. Et le métro, du coup, devient incontournable.
Essentiel. Mais c'est aussi un lieu compliqué. De cohabitation forcée entre Parisiens et occupants.
Avec des tensions.
Oui, des tensions, des regards. Mais aussi des petits actes de résistance. Une affiche lacérée, un ticket de métro avec un V découpé dedans.
Et parfois plus violent.
Effectivement, comme l'attentat de Barbès en août 41, où le colonel Fabien abat un militaire allemand. Ça marque une étape, un durcissement de la lutte.
Pourtant, malgré cette atmosphère pesante, une certaine vie continue, les cinémas, les théâtres.
Oui, une vie culturelle et mondaine persiste, c'est assez troublant. Certains cinémas tournent à plein régime, même si certains sont réservés aux Allemands. Les cabarets, comme le Bal Tabarin, sont très prisés des occupants.
Des restaurants aussi, comme Maxim's.
Maxime, la coupole?
Oui.
Et des artistes continuent de travailler, de créer. On pense à Sartre, Piaf, Guitry, dans des conditions parfois très ambiguës, faut le dire.
C'est ça qui est complexe.
Tout à fait.
Les Allemands encouragent certains divertissements, une certaine culture légère. Goebbels voulait cantonner le cinéma français à des films, je cite, « légers, vides, stupides ».
Et en même temps, ils organisent un pillage systématique.
Ah oui, un pillage culturel méthodique via l'ERR, Landsatzstab Reichsleiter Rosenberg. Ils ciblent massivement les collections d'art juives. Le jeu de pommes devient leur centre de tri, en quelque sorte. Göring lui-même venait choisir des œuvres.
Et c'est là qu'intervient Rose Vallant.
Exactement. Son travail secret pour répertorier ses vols depuis l'intérieur du jeu de pommes sera absolument crucial après la guerre. Ce pillage s'inscrit dans quelque chose de bien plus terrible, la persécution des juifs.
Absolument. Ça commence dès l'automne 40 avec les ordonnances allemandes qui sont appliquées par l'administration française de Vichy. Discrimination, recensement.
Puis l'arianisation des biens.
La spoliation des entreprises, des magasins. Les galeries Lafayette, par exemple, sont arianisées. Ensuite, vient l'obligation du port de l'étoile jaune en juin 1942.
Et l'horreur absolue. La rafle du Veldiv.
Les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 juifs, hommes, femmes, enfants, arrêtés par la police française, parqués dans des conditions épouvantables au vélodrome d'hiver, puis internés à Drancy, avant la déportation vers Auschwitz.
Très peu reviendront.
Moins d'une centaine de survivants sur ces 13 000. Et il ne faut pas oublier les attentats contre des synagogues dès octobre 1941.
Face à cette horreur et face à la collaboration de Vichy, la résistance parisienne, comment elle s'organise?
Elle naît progressivement dans l'ombre, avec des risques immenses. des réseaux se forment, comme Libération Nord. Des journaux clandestins circulent très tôt, Résistance, dès décembre 1940.
Quel type d'action ?
Ça va du renseignement, à la propagande, aux actions symboliques, et puis de plus en plus à la lutte armée, au sabotage. Mais la répression est féroce. Le Mont Valérien.
Oui, qui devient un des principaux lieux d'exécution des résistants par les Allemands. Les plaques commémoratives qu'on voit partout dans Paris aujourd'hui rappellent le prix de cette lutte. Et puis, finalement, la libération. Août 1944.
Oui, les Alliés ont débarqué en Normandie en juin. Ils progressent. À Paris, le 19 août, sur ordre du CNR et du COMAC, l'insurrection éclate, menée par les FFI, les forces françaises de l'intérieur.
Des combats de rue.
Oui, pendant plusieurs jours. Barricades, accrochages, jusqu'à l'arrivée de la 2e division blindée du général Leclerc qui entre dans Paris le soir du 24 août.
Et le 25 août, le gouverneur militaire allemand von Scholtitz capitule. Il y a cette légende tenace, il aurait désobéi à Hitler qui voulait détruire Paris.
C'est une question complexe et encore débattue. Avait-il vraiment reçu un ordre formel et explicite de tout raser ? Avait-il encore les moyens de le faire ? Difficile à dire avec certitude.
Mais l'essentiel, c'est que Paris a été largement épargné.
Oui, les ponts, les monuments, l'essentiel est préservé. Mais la libération, c'est aussi le début de l'épuration. Cette période trouble de justice, parfois expéditive, contre les collaborateurs. Avec des images fortes, comme les femmes tondues pour collaboration horizontale.
Paris occupé ? C'était donc ça ? Une ville sous contrôle, oui, vivant avec les restrictions, la peur, la propagande nazie ?
Mais aussi une ville où la vie tant bien que mal continuait. Avec des compromis, des actes de courage incroyables et cette tentative permanente de maintenir une forme de normalité.
Un mélange complexe.
Extrêmement complexe. Des contrastes saisissants entre l'ombre et une certaine lumière qui persistait malgré tout. Et ça continue de nous interroger, je crois.
Peut-être que la vraie question, c'est celle de la mémoire, non ?
Exactement. Comment est-ce qu'un pays intègre aujourd'hui cet héritage ? Cet équilibre aussi difficile entre la nécessité de survivre au quotidien, les choix individuels face à l'occupant, parfois la lâcheté, parfois l'héroïsme, et les tragédies collectives qui ont marqué ces 4 années. C'est une réflexion qui reste ouverte.